Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Double vie.
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 Bonjour, je suis Renée Grezard. Je suis journaliste à l'Obs et vous écoutez Double vie, un podcast dans lequel des femmes et des hommes racontent leur vie cachée, leur vie secrète, leur vie compartimentée. Ce pourrait être votre père, votre mère, votre mari, votre femme ou même votre meilleur ami. Ce pourrait être tout un tas de gens dont vous croyez tout savoir, mais qui en réalité jonglent avec les secrets et les normes. Ce pourrait être toutes ces personnes donc. Mais aujourd'hui, c'est Pierre qui se tient face à moi. Pierre porte une belle chemise blanche, ouverte au niveau du bouton du haut, un costume bleu marine, pas de cravate. En revanche, il a un attaché case. Et je crois avoir remarqué qu'il y a The Economist dedans. Si vous le croisiez dans la rue, vous imagineriez probablement qu'il est banquier ou agent immobilier. C'est un garçon brun, de taille moyenne, et pour le reste, je le laisse vous raconter.
J'ai 23 ans, je suis né dans un village dans la Manche. J'ai toujours été un bon gamin, j'ai toujours essayé d'être un enfant sage, dont les parents puissent être fiers. J'ai eu une enfance assez stable. On n'était pas des gens riches, mais on n'était pas non plus des gens pauvres. Donc je pense avoir eu une enfance heureuse, et je suis heureux d'avoir eu l'enfance que j'ai eue. J'étais un très très bon élève. Durant ma terminale littéraire, j'ai fait une option droit. Ça m'a plu, donc je me suis dit que je pourrais continuer. Et j'ai ensuite découvert un petit peu l'École nationale de l'administration, et là je me suis dit, mais c'est un truc absolument génial, je veux faire l'ENA. J'étais pareil, en droit, très très bon élève. Donc, pour moi, c'est une très très bonne période de ma vie. Tout fonce, tout va très vite. Donc, arrivé à ma seconde année de droit, il y a eu un petit événement qui a fait qu'il a fallu que je fasse autre chose. J'étais boursier à l'époque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents, en fait, ils ont eu une bonne rentrée d'argent, si bien qu'au final, je n'avais plus le droit aux bourses, mais à quelques euros près. Donc, faute d'argent, en fait, il a fallu que j'arrête mes études. Ça a été extrêmement dur. Pour moi, tout s'effondrait, en fait. Les projets que j'avais faits se finissaient.
Pierre se trouve donc devant un grand vide et beaucoup de questions. Lui qui vient d'un milieu modeste, lui qui voulait atteindre les sphères les plus hautes, se retrouve renvoyé à ses origines. Que faire de sa vie maintenant? Il est complètement abattu et il finit par faire une dépression. Mais comme il est résilient, Pierre, pour se relancer dans la vie, décide finalement de réaliser un vieux rêve.
J'ai toujours été passionné de voitures depuis ma plus tendre enfance. Mes parents avaient une vieille Mercedes. Forcément, avoir le sigle au bout du capot et tous ces trucs-là, quand on est gamin, ça fait rêver. Puis quand on est gamin, on se dit « Ah bah oui, bah la voiture de papa, c'est la plus belle du monde !» Parce que voilà, c'est la voiture de papa. Et j'ai fait le choix de me lancer dans la vie active en tant que vendeur automobile. Le rêve suprême, c'était de rentrer chez Mercedes. Mais bien sûr, Mercedes ne me prend pas comme ça. Donc, j'ai écumé les concessions. Je suis allé déposer mon CV absolument partout. Et puis, personne ne m'a pris. Parce que personne n'a recruté. Donc, je suis rentré en intérim. Et puis, il y avait une usine agroalimentaire qui recherchait du monde à l'époque. Donc, je me suis dit, bon, bah allez, on va essayer. Et puis, le temporaire est devenu un peu plus long que prévu, en fait. Et donc, j'ai décroché tout premier contrat. C'était donc un contrat à durée indéterminée. Et ce contrat m'a permis de réaliser aussi mon deuxième rêve de gamin, donc de m'acheter la fameuse Mercedes.
Ensuite, on va passer vite là-dessus, mais il y a eu toute une série de hasards et de rencontres qui ont fait bifurquer Pierre. Aujourd'hui, il a quitté l'agroalimentaire et il travaille comme ouvrier pharmaceutique. Il est plutôt heureux, même si sa vie sentimentale ne le comble pas totalement.
J'ai pas de copine, je suis tout seul. J'essaye de faire des rencontres. J'ai toujours essayé d'en faire quand j'étais donc étudiant, quand j'étais lycéen. Mais je n'ai absolument aucun succès. J'ai toujours été un très mauvais dragueur. J'ai jamais su m'y prendre. très clairement. Ce qui fait que paradoxalement, malgré le fait que je sois toujours très entouré, je me suis toujours senti extrêmement seul. Si bien que, oui, j'étais entouré, mais j'étais très seul, en réalité. Ce que je cache, c'est que le jour je vois des femmes et la nuit je vois des hommes. Je le cache à tout le monde. Absolument personne n'est au courant. Mon attirance pour les hommes commence à la fac. À l'époque, j'ai 20 ans. J'ai simplement envie d'essayer de nouvelles choses. Ça peut paraître absolument cliché. Je commence à faire des rencontres, à vivre un petit peu ce que j'ai envie de vivre, à vivre avec ce qui m'attire et ce qui m'excite. Et donc, j'ai ma première relation avec un homme à l'âge de 20 ans. Et puis, tout se passe extrêmement bien. Je fais mes rencontres sur des applis au départ. Et parallèlement à ça, je suis sur Tinder, mais pour les filles. À ce moment-là, je suis un peu paumé. J'ai de l'attirance physique pour les mecs, mais j'ai aussi de l'attirance physique et davantage romantique aussi pour les femmes. Ce qui fait que, quelque part, je ne me définis pas, je ne me définissais pas à l'époque et je ne me définis donc toujours pas aujourd'hui. Ce n'est pas que je ne sais pas où j'en suis. Je sais très bien ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui m'attire, ce qui ne m'attire pas. Je pense juste que j'ai peut-être pas besoin de mettre un nom dessus. Je suis comme je suis, et puis c'est tout.
C'est marrant, Pierre qui refuse de se définir selon une catégorie LGBTQIA ne le savait pas, mais « je suis ce que je suis », c'est exactement la traduction de la chanson de Gloria Gaynor, « I am what I am ». C'est une sorte d'hymne gay, initialement composé pour La Cage aux Folles, la comédie de Broadway. Elle dit « I am what I am, I don't want praise, I don't want pity ». Ça veut dire donc « je suis ce que je suis », puis « je ne veux ni louange, ni pitié ». Mais bon, pour revenir à Pierre, qu'importe son étiquette ou s'il n'en a pas, ce qu'on pourra noter, c'est qu'il a couché avec des hommes avant même de coucher avec des femmes.
Ma première relation avec un homme, j'ai 20 ans, et ma première relation avec une fille, bien que j'ai toujours eu beaucoup d'attirance pour les femmes, et ce depuis mon plus jeune âge, elle arrive beaucoup plus tard, puisque j'ai 22 ans à l'époque. Quand je parle d'attirance pour les hommes, je parle de quelque chose de purement absolument physique. Peut-être même qu'on pourrait dire physiologique. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est là, ça me tombe dessus, c'est comme ça. C'est aussi quelque part, l'attirance pour les hommes, c'est quelque chose... je suis plus dans la recherche de sensations. Et c'est peut-être cruel de dire ça, mais j'ai peut-être plus cherché la performance et être donc davantage exigeant, ce que je ne suis pas avec les femmes. C'est-à-dire qu'avec les femmes, tout est plus compliqué. Dans le futur que je veux me marier, je veux avoir des enfants et je veux aussi avoir en fait de bons rapports avec ma famille ou des choses comme ça. Pas que ce serait mal vu que je sois avec un homme, mais... Pour moi, j'arrive pas à me projeter dans le futur en étant aux côtés d'un compagnon masculin.
Pierre a donc cette vision du couple qu'on pourrait paradoxalement qualifier de très classique. Et c'est un peu comme si les hommes étaient pour lui une sorte d'échappée, voire un lieu de créativité. L'occasion à chaque fois de s'aventurer sur de nouveaux terrains.
Au bout de ma cinquième rencontre, j'ai commencé à faire des choses un peu moins conventionnelles avec les mecs. J'avais envie donc de vivre mon fantasme. Et d'aller au bout de mon fantasme. Moi, je pratique tout ce qui va être, par exemple, shibari, donc le bandage, tout ce qui va être la suspension, c'est-à-dire qu'on est suspendu, on est accroché en l'air, ça peut sembler absolument déconnant, mais voilà, si, c'est un truc que je fais. Je pratique tout ce qui va être, par exemple, tap ou des choses comme ça. C'est des rapports qui peuvent sembler être extrêmement violents, et peut-être qui peuvent parfois simuler des actes non consentis. Malgré tout, contrairement aux clichés, la personne qui a le pouvoir d'arrêter la séance, c'est la personne qui se soumet. Et moi, j'ai ce pouvoir, et ce pouvoir, il s'exprime notamment par ce qu'on appelle, donc dans notre monde, si je puis dire, le safe word. Et donc, le safe word, c'est un mot qui, lorsqu'il est prononcé, met fin immédiatement à la séance. J'ai fait la rencontre il y a à peu près 2 ans, d'un homme qui est un peu plus âgé que moi, même un peu beaucoup, on va dire, qui a à peu près la cinquantaine, chef d'une grande entreprise, avec une très bonne situation, une personne extrêmement intelligente. C'est un partenaire de confiance. C'est la seule personne dont je puis dire ça, et je sais que c'est réciproque. Nos séances nous satisfont, et nous continuons de toujours aller plus loin dans ce qu'on fait. C'est aussi ça qui est intéressant dans ces relations-là, c'est qu'on peut toujours repousser un petit peu les limites, toujours aller un petit peu plus loin. Du point de vue des sentiments, je n'estime pas pouvoir avoir de sentiments vis-à-vis de mon partenaire. D'abord, parce qu'on se considère tous les deux comme partenaires. Ensuite, parce qu'on a commencé à se fréquenter et à se rencontrer pour ça. Pour, je vais parler un peu crûment, mais pour de la baise.
Quand j'écoute Pierre, je suis quand même troublée. Nous sommes en 2021. Le mariage gay est légalisé depuis 2013. Alors pourquoi cache-t-il à ses proches qu'il couche parfois avec des hommes ?
J'évolue dans un monde qui est un petit peu fermé d'esprit vis-à-vis des hommes qui ont des relations entre les hommes. On ne parle pas d'homosexuels, non. Ou alors on dit des pédales. Donc j'évite de montrer cet aspect de ma vie à ce genre de personnes. J'habite dans un village de campagne paumé au fin fond du trou du cul du monde. Il doit y avoir à peu près 350 habitants. C'est des gens qui sont, on pourrait dire, un petit peu très vieille France. C'est des gens aussi, donc bien sûr, assez âgés. Aussi, par respect pour ces gens, j'estime que je n'ai pas à essayer de les faire changer et je n'ai pas essayé de les faire évoluer sur ces questions, ou même je n'en ai pas la volonté. Par chance, ma famille n'est pas dans cet esprit-là. C'est une famille qui est extrêmement ouverte d'esprit. Mais j'ai fait le choix de ne pas le montrer, donc d'abord par confort, c'était plus simple pour moi, puis aussi parce qu'à l'époque, j'étais pas forcément à l'aise avec cette question, je savais pas trop comment agir, me comporter. Donc ensuite, ça a été une sécurité et peut-être même une nécessité. Je pense pas que j'aurais la vie que j'ai aujourd'hui si j'avais révélé ça à ma famille. Ma famille l'aurait accepté car je suis leur fils et ils partent du principe que notre enfant peut faire tout ce qui lui chante tant qu'il est heureux. Mon adolescence et mon parcours en tant que jeune homme est connu de beaucoup de monde et mon parcours est apprécié. Et c'est un parcours que je me suis créé avec difficulté. Je l'ai fait donc à la sueur de mon front et quelque part, c'est aussi une sécurité pour moi de ne pas divulguer cet aspect de ma vie dans la mesure où tout ce parcours risquerait d'être entaché. Je ne veux pas que ces gens-là résument ma vie au fait que je vois des hommes, tout simplement.
Voilà, c'est pour ça que Pierre préfère ne rien dire. Et ce qu'il nous rappelle, c'est que l'homophobie est encore bien présente en France et que ce n'est pas indolore de faire un coming out. Et voilà comment il ment aussi, à tout le monde, à ses proches, à ses amis, à ses parents chez qui il est retourné vivre. Mais ce qui m'intrigue encore, c'est de comprendre comment il fait pour ne pas s'en mêler les pinceaux.
J'essaye de rester le plus proche possible de ma réalité. Là où ça peut être compliqué, c'est quand on fait un mensonge sur un mensonge sur un mensonge pour recacher un mensonge. Donc là, forcément, à un moment, on perd le fil et on finit par se faire découvrir. Et pour éviter d'avoir ce risque-là, moi, ce que je fais, je reste... Déjà, je reste vague. Quand je dis que je sors, je sors. Pour faire quoi ? Pour voir du monde. Est-ce qu'en soi, c'est un mensonge ? Non, parce que je sors pour aller voir du monde. Quand je fais le bilan de tout ça, à bien y réfléchir, c'est pas non plus la première fois que je cache autant de choses à mon entourage. Quand j'étais au collège, d'abord, j'ai eu des périodes et des moments extrêmement difficiles du fait que j'ai été un très très bon élève, que les professeurs me prenaient régulièrement en exemple. Eh bien, les moins bons élèves n'ont pas trop apprécié. C'est-à-dire que la réussite de l'un renvoie aux échecs de l'autre. C'est comme ça que fonctionnent les gamins. Et donc, j'ai souffert de harcèlement. Des broutilles, se faire pousser dans un couloir, enfin... Mais je disais rien, parce que bon, peut-être que j'avais aussi un petit peu peur de faire changer les choses, et qu'en fait, que ça soit encore pire. Et la situation, en fait, s'est empirée, mais ça venait pas, en fait, ça s'est empiré tout seul. Donc, j'ai toujours souffert de problèmes de peau, qui ont conduit, en fait, à des plaies, tout le temps. Et un jour, j'ai été attrapé en sport, dans les vestiaires, quand on changeait. Ils m'ont foutu dans les douches, ils m'ont foutu à poil. Puis ils ont collé, vous savez, les scotch de déménagement, les scotch bras. Ils ont collé tout ça dessus, puis ils ont tout arraché. Donc ça a été quelque chose d'assez hard. J'ai dû saigner toute la journée, je crois. Il était 10h le matin, les cours se finissaient à 17h le soir. Quelque chose comme ça. J'ai souffert de ce genre d'attaque et de brimade, en plus d'être ridiculisé en public, pendant 4 ans, de la 6e à la 3e. Mais j'ai tenu bon, car j'ai fait le choix, à l'époque, de me dire... Ils ont gagné cette manche, je gagnerai la prochaine. Et la prochaine manche que je vais gagner, ce sera par la réussite. C'est-à-dire que c'est ça le gamin. ont gagné par la force. Moi, je vais gagner parce que j'aurai un meilleur salaire, j'aurai une plus belle bagnole, j'aurai une belle maison et j'aurai une belle copine. Et j'aurai de beaux enfants. Eux n'auront rien de tout ça. Ils resteront à vivre dans un trou paumé, dans un endroit bien boueux, avec des bagnoles de merde, parce que j'ai toujours aimé les bagnoles. Donc forcément, il fallait que ce soit des bagnoles de merde. Une mauvaise maison, et puis une marâtre à la maison.
Sauf qu'à force de tout tenir à bout de bras, à force de dissimuler le harcèlement dont il était victime, Pierre a fini par perdre pied.
Je ne peux pas dire que ce soit un burn-out, mais j'ai fini un peu par craquer, et j'ai fait une tentative de suicide. Donc un jour, j'en avais marre. Je suis monté au troisième, j'ai ouvert une fenêtre, je suis monté sur le bord de la fenêtre. Je suis dans une salle de classe. J'ai regardé le paysage, puis je me dis bon, bah tu l'as vu une dernière fois, maintenant tu peux y aller, faut sauter. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis fait tirer en arrière. Un professeur était rentré et m'avait chopé, m'avait rattrapé à temps. Merci, professeur. Donc, j'ai été pris en charge par l'infirmière du lycée, par la CPE. Tout un dispositif de suivi a été mis en place pour pouvoir m'accompagner et quelque part essayer de me guérir. Mais le problème, c'est que c'est peut-être pas moi qu'il faut guérir, en fait, dans l'histoire. Et à ce moment... La seule chose qui me fait tenir, c'est l'image qu'ont mes parents de moi et le fait que mes parents me présentent à leurs amis en disant « voilà Pierre, il a de super bons résultats, c'est un très bon élève, il se donne à fond et plus tard, il aura un super bon travail ». Et c'est cette image-là, moi je me raccroche à ça, je me dis « ouais, bon allez, s'il le dit, c'est que c'est vrai, parce que bon, c'est mes parents, quoi ». À aucun moment, ils n'ont su que j'ai eu une vie de harcelé. Que j'étais donc au bord du gouffre et que j'ai failli donc sauter par la fenêtre. À aucun moment, ils ont eu conscience du danger. Alors peut-être que aujourd'hui, les gens se diraient, mais c'est absolument de l'irresponsabilité. Non, moi je dirais simplement que peut-être que j'étais un bon menteur, je sais pas. Ça a été mon choix de le cacher et je l'assume. J'ai appris à dissimuler des mensonges, ce qui à l'époque était des mensonges et ce qui aujourd'hui est ma double vie. J'ai appris à compartimenter et j'ai appris à voir un petit peu deux mondes.
Y a-t-il un lien entre le harcèlement qu'a vécu Pierre et le pouvoir qu'il recherche dans la soumission ? On pourrait le soupçonner, on pourrait imaginer que c'est sa façon à lui d'apprivoiser cette violence qu'il a subie, en la maîtrisant cette fois-ci. Mais Pierre réfute complètement cette idée.
Bien que physiquement, il pourrait y avoir des points communs, mentalement, pour moi, ce sont deux choses très différentes. Car d'un côté... Le harcèlement, on le subit. Et d'autre part, le fait que je me soumette actuellement, c'est quelque chose que j'ai décidé, que je souhaite. Donc pour moi, c'est deux choses totalement différentes.
Et puis ce qui est sûr, c'est que Pierre trouve des avantages dans cette double vie. Elle lui plaît, et même, elle continue de le faire fantasmer.
Je vais vous confier un autre secret. Quand j'étais gamin, il y a un truc qui me faisait absolument rêver. C'était James Bond. Et quand on est agent secret, apparemment, il faut savoir dissimuler des choses. Donc peut-être qu'au départ, tout ce qui était harcèlement, j'ai commencé à le dissimuler aussi en me disant « Ouais, mais James Bond, il est vachement fort, hein, donc il arrive à cacher ces trucs-là. Donc j'aurais peut-être réussi aussi à cacher ces trucs-là. » Et j'ai continué comme ça, intimement, chaque fois que je pars en disant « Ah bah oui, je vais voir un ami, un tel ou un autre. » Alors qu'en réalité, je vais voir mon partenaire, je me dis « Ah ouais, mais ça pareil, hein, ça pourrait être des excuses que je pourrais donner si jamais j'étais un agent secret, en rigolant. » Bien sûr... Peut-être qu'une certaine façon de progresser pourrait être de révéler tout ça à tout le monde. Mais c'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas. Car cette vie secrète, en fait, je la maîtrise. Il n'y a aucun facteur influenceur. C'est-à-dire que j'ai pas envie de prendre le risque de voir ce que j'ai réussi à construire voler en éclats. Parce que j'ai fait le caprice de vouloir vivre ma vie cachée de façon quotidienne. Et d'une certaine façon, je suis fier de ma seconde vie. Parce que j'ai réussi à me forger des expériences et à apprendre des choses que je n'aurais pas pu apprendre dans ma vie de tous les jours. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement riche, cette seconde vie. C'est quelque chose, quelque part, de ressourçant et de sécurisant. Car si un jour, dans le pire des scénarios, je perdais tout, j'aurais toujours cette seconde vie là qui serait là pour moi. La double vie que j'ai, je le résume en une phrase, c'est « je suis le roi du monde ». Je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. J'ai le champ des possibles qui est ma seule limite. Et pour moi, c'est quelque chose d'absolument incroyable, parce que c'est pas une chance que j'ai dans ma vie actuelle, dans ma vie de tous les jours. Car dans la vie de tous les jours, on a donc la pression de la société, la pression du regard des autres, la pression aussi de la réussite, la pression de l'argent. Et tout ça, c'est des pressions dont je me suis débarrassé grâce à cette seconde vie, et dont je n'aurais pas pu me débarrasser, je pense, autrement, si ce n'est bien sûr en devenant très riche ou des choses comme ça.
Pour finir, j'ai demandé à Pierre ce que je demanderais à chaque personne invitée dans ce podcast. À quoi ressemblerait le monde qui lui permettrait de réunir ces deux parties d'iceberg ?
Bien sûr, un monde idéal permettrait de vivre en accord avec tous ces fantasmes et toutes ces choses-là. Mais ma double vie ne s'arrête pas qu'au fantasme. Ma double vie va bien au-delà, puisque il y a toute cette partie apprentissage, cette partie rencontre. Professionnellement, on pourrait presque parler d'une forme de réseau. Et il y a aussi cet aspect de liberté, cet aspect de lâcher prise. Donc au final, qu'un monde pareil existe, tant mieux, mais je ne suis pas persuadé que j'accepterai de tout divulguer, de vivre pleinement mes deux vies. Après, cette seconde vie, un jour, elle s'arrêtera. Il y a deux raisons pour lesquelles elle pourrait s'arrêter. La première, qui est un petit peu fleur bleue, c'est que je rencontre quelqu'un d'absolument incroyable qui fait que je n'ai plus le besoin d'aller voir mon partenaire. Puis la deuxième chose qui pourrait me faire arrêter cette seconde vie, qui est beaucoup plus triviale, c'est que je meurs.
On souhaite plutôt à Pierre de continuer à vivre longtemps et heureux. Et sinon, la théorie de l'iceberg, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, si vous avez de la glace cachée quelque part, écrivez-moi sur Twitter ou sur Instagram. On verra si on peut faire fondre tout ça ensemble.
Cet épisode a été monté par Mao Landaz, réalisé par Julien Bouisset. La musique est de Rain Man et la direction éditoriale était assurée par Mathieu Aron.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.